Vous écoutez le Libre Journal des Amitiés Françaises, dirigé par Thierry Delcourt, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, dimanche 5 mars 2023, de 18h à 21h, et réalisé par Stéphane. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonsoir. Bienvenue aux auditeurs qui nous rejoignent maintenant. Nous allons donc passer 1h30 sur un thème très différent de celui de la première partie, puisque nous allons parler des Vikings. En moins de 3 siècles, la civilisation viking, car il s'agit d'une civilisation, c'est ce que va nous expliquer notre invité ce soir. La civilisation viking a profondément marqué le monde occidental. Comment ces hommes du Nord ont-ils dompté les mers pour laisser leurs traces aux quatre coins de l'Europe, jusqu'en Amérique aussi, faut-il ajouter. Aux premières razzias des vikings danois vers les îles britanniques et la France, où ils renversèrent un roi et fondirent la prospère Normandie, eh bien succèdent de grands voyages des Norvégiens vers l'Islande, le Groenland et donc l'Amérique, 5 siècles avant Christophe Colomb. Et dans le même temps, eh bien, les vikings suédois, eux, sont allés vers le sud et l'est de lacs en fleuve. Ils traversèrent l'Europe, la Baltique et donnèrent ainsi leur premier tsar à la Russie. D'où le titre d'ailleurs de l'émission, les Vikings, leur histoire de Kiev. Parce que Kiev a été fondée par les Vikings.
Absolument.
Jusqu'à Hastings, hein, qui est Guillaume le Conquérant est un Viking, est un fils en tout cas,
un descendant
direct de Viking.
Voilà.
Un homme du Nord. C'est un Norman.
C'est un Norman, oui.
On va dire ça comme ça.
Oui.
Notre invité, vous l'entendez, va nous bien sûr préciser toute cette histoire extraordinaire. C'était une épopée en 3 mouvements qui est raconté par Dominique Lebrun, raconté sous la forme d'un grand récit qui nous donne à voir une société qui est à la fois paradoxale et fascinante, hein, des paysans scandinaves, ce sont des paysans au départ qui deviennent des navigateurs exceptionnels, ce sont des pillards d'une violence inouïe, ça, tout le monde s'en souvient, c'est l'image qui leur reste, mais à côté de ça ils sont capables de commerce comme ils l'ont montré le long des fleuves de la Baltique et puis de ce qui allait devenir le royaume de Kiev, hein. avec la Volga, le Dniepr, etc. Ils sont capables d'administration, de gouvernance quasi démocratique. Ce sont des païens aussi qui deviennent chrétiens. Ce sont aussi des artistes et en quelque sorte aussi des écrivains. C'est ce que nous allons découvrir. Enfin, ils ont véritablement fondé une civilisation. C'est ce que nous raconte un livre passionnant sur la vraie nature et sur l'histoire de ces hommes du Nord, particulièrement de ces 3 siècles d'exploration et d'aventure guerrière qui marquèrent notre imaginaire et bouleversa notre histoire, à l'exemple du plus illustre de leurs descendants directs, j'en ai parlé, il s'agit bien sûr de Guillaume le Conquérant, ce qui justifie le sous-titre de ce livre, l'épopée viking 793-1066, 3 siècles pour l'éternité. Et nous recevons, vous l'avez compris, l'auteur Dominique Lebrun qui publie ce livre aux éditions Vibert. Dominique Lebrun, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous
ce
soir.
C'est un plaisir.
C'est vraiment un plaisir partagé que de vous recevoir en direct autour de ce micro. Nous avions reçu à 2 reprises en 2022 pour Surcouf et aussi l'épaule Une aventure française. Vous aimez bien les mers froides. Hein,
parce que... On dirait, oui, on dirait.
Je rappelle aux auditeurs de Courtoisie donc, qui vous connaissent, vous êtes écrivain, vous êtes généraliste, vous êtes écrivain de marine d'ailleurs, oui. Précisons-le. Vous étiez aussi journaliste, que vous avez en quelque sorte découvert votre vocation de journaliste de marine à l'occasion d'une tempête dans laquelle vous avez failli être naufragé.
Mais on a raté, on est revenu.
Vous êtes revenu fort heureusement pour notre bonheur, vous êtes là ce soir. Et c'est ainsi que vous aviez effectivement découvert cette vocation de journaliste maritime. Et vous avez aussi écrit, alors je précise aussi que vous êtes secrétaire général et vice-président de la société.
J'étais.
Vous étiez ?
J'ai fait mes mandats, j'étais jusqu'au bout, mais je suis un ancien combattant de ce côté-là.
Non, ça ne se voit pas. C'est pour ça que pour moi, je pensais que vous l'étiez toujours.
Non.
Vous avez écrit aussi de...
Non, j'ai fait le temps statutaire.
Vous avez écrit de nombreux livres, d'ailleurs, de nombreux articles aussi, et de nombreux livres. J'en rappelle juste quelques-uns. Un sur Vauban, l'inventeur de la France moderne. Et c'est grâce à vous aussi que nous avions pu faire cette émission récemment. Hein, sur la personnalité, sur le caractère de Vauban. Et puis vous avez écrit... aux éditions Omnibus Arctique, l'histoire secrète. Vous l'avez un peu développé dans votre dernier ouvrage aux éditions Talendier, d'ailleurs l'épaule, une aventure française. Vous avez écrit aussi La Méduse, les dessous d'un naufrage, toujours chez Omnibus. Bougainville, l'histoire secrète, encore chez Omnibus. Et je précise que vous avez eu en juin 2021 le prix Éric Tabarly du meilleur livre de mer. Donc, pour ce livre sur l'épaule, une aventure française, publié aux éditions Talendier. C'est le prix littéraire annuel de l'association des anciens de l'école navale.
J'en suis assez fier.
Et c'est vrai qu'Éric Tabarly était passé par,
bien sûr.
Par l'école navale. Alors, c'était l'école navale ou l'école...
C'était l'école navale, la vieille école navale.
Il y a plusieurs versions, c'est ça.
Absolument. Et ensuite, il a fait sa carrière d'abord comme officier de marine et ensuite comme officier de marine détaché sur un bateau qui s'appelait Penwick.
Je vais vous poser la question traditionnelle. Pourquoi ce livre sur les Vikings, c'est votre goût pour les mers froides?
Oui, c'est une
espèce... Sur le Groenland, les pauvres...
C'était une espèce d'évidence que ça m'arrive un jour d'écrire sur les Vikings parce que j'avais travaillé beaucoup sur l'Arctique, donc sur les premiers à naviguer en Arctique, par conséquent sur les Vikings qui y avaient été dès quand même l'an 1000, ce qui est donc assez étonnant a priori, mais en tant que navigateur moi-même, j'étais étonné de voir que l'on s'étonne que les Vikings étaient capables de traverser l'Atlantique Nord. Alors qu'en fait, non, ça s'explique très simplement, ça exige du temps, évidemment, ça exige des naufrages. Mais en fait, l'arc atlantique d'île en île est une chose tout à fait fréquentable. Et puis surtout, le type de bateau qu'ils avaient, mais ça on en reparlera, la façon dont ils étaient construits, la façon dont ils naviguaient, fait que ce genre de navigation était tout à fait plus que possible. Je vais pas dire non plus évidente, mais plus que possible. Et du coup, j'avais envie de démonter tout ça. Mais pour démonter tout ça, il fallait que je prenne la civilisation viking à sa base. Et ça aboutit finalement à un livre qui repart donc dans le bon sens, qui sont les Vikings, quelle est cette civilisation, pourquoi le bateau dans cette civilisation, comment les bateaux, et après qu'est-ce qu'ils en ont fait. C'est donc c'est parti dans un sens et puis ensuite dans l'autre. En même temps, c'est un sujet tout simplement fascinant.
Alors comment avez-vous procédé pour écrire
Alors j'ai eu de la chance.
Oui, parce qu'il a peu d'écrit sur les Vikings proprement.
Alors,
sur
on
leur
a
histoire,
eu en France.
Histoire globale en tout cas.
On a eu en France un spécialiste qui a un peu occupé tout le terrain pendant très longtemps. Ce qui fait que pendant longtemps, on a eu les mêmes livres répétés, repris, on a eu traduction d'étrangers. Aujourd'hui, on a des nouveaux historiens qui attaquent le sujet, donc il y a quelques ouvrages qui arrivent, mais je pense que j'ai écrit le premier ouvrage, disons, très grand public, dans lequel il y a le moins de dates possibles, le moins de concepts possibles, pour des explications simples. Vous avez dit tout à l'heure que c'était un grand récit, et j'en suis très fier, parce que effectivement, c'est un récit, je raconte les Vikings. Et donc, pour moi, c'est une grande et belle histoire.
Alors vous n'hésitez pas à parler de civilisation viking, de culture viking. Vous avez précisé d'ailleurs dès le début, c'est une épopée en trois aventures qui correspondent à l'aventure de trois peuples différents.
Dans une seule civilisation.
Mais c'est ça. Alors ça va être la question, effectivement. Donc c'est pour le rappeler aux auditeurs de Radio Courtoisie, trois peuples, il y a les Norvégiens qui vont aller plutôt côté Islande, donc Amérique. Il y a les Danois qui, eux, vont aller côté Angleterre et côté France, et puis même après, la Méditerranée, Rome, et plus loin encore. Et puis, il y a les Suédois qui, eux, vont être à l'origine de la Russie. La Rousse de Kiev, c'est une fondation viking.
On
la doit aux Vikings. Alors donc, trois peuples différents, mais une même culture, une même civilisation.
Langue,
alors, est-ce que vous pouvez justement nous préciser ce qu'ils ont de commun entre eux, et pourquoi ça fait une culture, ça fait une civilisation, et en même temps, vous dites que c'est une société qui est façonnée, on le comprend d'ailleurs par la géographie et le climat, nous décrire cette géographie, ce climat.
C'est tout un chapitre que vous me demandez là.
Alors, oui, c'est beaucoup. Ça va nous amener certainement à la fin de l'émission.
oui, ça pourrait. On va partir de la géographie moderne, en fait. De la Scandinavie moderne, dans laquelle on a trois pays qui sont partant du nord vers le sud. Norvège, Suède, Danemark. Et vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait de la Finlande? Pourquoi la Finlande ne serait pas un pays scandinave? Je vous réponds tout de suite. Parce que la Finlande a une langue à part. Alors qu'à l'origine, les trois autres ont la même langue. Et aujourd'hui, entre le norvégien, le danois, le suédois, les différences sont pas trop sensibles, on va dire. Voire, il existe des dialectes qui chevauchent complètement. On a la même chose dans le bassin méditerranéen, d'ailleurs. Alors ça, c'est le premier point. En revanche, ce qui complique un peu les choses et qui fait des différences, c'est que la géographie n'est pas tout à fait la même du point de vue des reliefs et du point de vue des climats. Entre le Cap Nord et donc toute cette zone des Alpes norvégiennes, on peut dire, cette montagne qui plonge dans la mer, et au sud, le Danemark qui, lui, est tout plat, entre la Norvège qui est une montagne entaillée de fjords, alors qu'on peut qualifier le Danemark de, on va dire, de grand archipel, entre les deux, la Suède qui, elle, est en termes de relief et de géographie, un mi-chemin entre les deux, mais couverte de forêts et de lacs. On a donc des populations qui vont devoir s'adapter de façon, dans le détail, à ces reliefs différents, à ces climats différents, et qui par conséquent auront des destins différents. Pourquoi les Norvégiens vont-ils traverser l'Atlantique Nord par étapes? Tout simplement parce qu'en Norvège, on vit au bord de l'eau sur des franges côtières très réduites, sur lesquelles une surpopulation arrive rapidement. Il a suffi d'une époque de radoucissement du climat pour que les taux de fécondité augmentent, et du coup, on a eu trop de Norvégiens. Ce n'est pas un hasard si les Vikings norvégiens ne connaissent pas en droit pénal la peine de mort, mais le bannissement. Tu as péché, tu t'en vas.
Il n'y a pas la peine de mort.
Il n'y a pas la peine de mort.
Et pourtant, ce peuple très cruel.
Oui, mais quand on est banni, c'est pire que la mort, de toute façon.
Oui.
Bah oui. Les Danois, de leur côté, qu'est-ce qui va se passer? Ils ont un pays qui est beaucoup plus méridional, donc beaucoup plus facile à vivre. Ils n'ont pas de problème de déplacement dû à des montagnes et ce genre de choses. Mais lorsqu'ils vont vouloir prendre de l'expansion, ce ne sera pas tout à fait pour les mêmes raisons. Ce sera plutôt pour aller piller ce qu'il y a chez les gens qui ont des choses qu'eux aimeraient bien avoir, mais qu'ils n'ont pas. Donc, ils partiront vers là où il y a à piller. L'Angleterre, la France, le nord de l'Allemagne. Quant aux Suédois qui, eux, donnent complètement sur la Baltique, on dit qu'ils sont dans un cul-de-sac. Eh, mais non. Ils ont l'accès au grand fleuve qui arrive sur la Baltique et ça leur permet en fait d'entrer dans le cœur de l'Europe et ils y entrent tellement profond que finalement ils vont se retrouver dans la mer Noire et de là en Méditerranée. Évidemment, tout cela va se passer en quelques siècles, mais pas tant que ça. 3 siècles, c'est dérisoire.
Avant de vous poser cette question que je pense est importante pour la compréhension de l'épopée viking, c'est-à-dire ce qui va déclencher justement l'épopée proprement dite. Hein. Qu'est-ce qui va déclencher ces explorations à travers l'Atlantique pour les vikings norvégiens, ce qui va déclencher les pillages vers l'Angleterre et la France et encore plus loin pour les vikings danois, et ce qui va déclencher cette conquête progressive, commerciale, guerrière, des vikings scandinaves vers la steppe ukrainienne, hein, puisqu'il s'agit de ça, et ce n'est pas encore l'Ukraine naturellement, qui sera l'épopée des Varegs, qui va les emmener d'ailleurs jusqu'à Constantinople, puisque vous nous racontez dans votre livre, Dominique Lebrun, l'épopée viking aux éditions Vuibert, que les Varegs, qui sont l'autre nom des vikings scandinaves, vont tenter de prendre Constantinople. Et il y a des éléments déclencheurs de cette épopée que vous faites commencer d'ailleurs en 793, vous nous expliquez pourquoi. Mais avant d'aborder cette question importante pour la compréhension de l'histoire des vikings, pouvez-vous nous préciser d'autres traits qui caractérisent la civilisation, la culture viking autre que la langue? Quelle est l'organisation de la famille? Quelles sont leurs organisations politiques? Quelles sont leurs religions?
Alors, là aussi, c'est un sujet vaste. On va essayer d'être concis et efficace.
On a quand même un petit peu de temps, Dominique Lebrun, devant nous.
Déjà, une précision qui est tout à fait frappante et qui explique beaucoup de choses. Chez les Vikings, il n'y a pas de ville. Alors, on dit, ah bon, alors comment ils font? Eh bien, en fait, les Vikings, quel que soit le pays d'origine, la région, hein, ils vivent par cellules, disons par zone de vie. Là où en Norvège, par exemple, il y a une zone de terre un peu plus large qui permet de cultiver un petit peu, d'élever, d'avoir une zone abritée de la mer, des gens s'installent et généralement, on a une structure de clan. Un clan qui regroupe plusieurs familles avec généralement un patriarche. Et puis, le clan, il a des voisins. Et donc, de temps en temps, pour des questions importantes comme éventuellement partir ensemble, mener une expédition de conquête, ou bien se défendre d'ennemis qui arrivent, plusieurs clans sont amenés à s'associer. Et de cela découlent des structures sociales qui se mettent en place de façon très efficace avec des systèmes d'assemblées. Alors d'abord, un principe à l'opposé de la féodalité, telle qu'on la pratique dans le reste de l'Europe, on n'a pas une hiérarchie entre, disons, le roi et puis tout en bas, le manant. Tout le monde est a priori égal, à condition de ne pas être un esclave. Il y a beaucoup d'esclaves et, il faut le savoir, ceux qui apportent des liquidités, des moyens de commerce aux vikings, c'est le trafic d'esclaves. C'est-à-dire ceux qu'ils vont capturer dans d'autres pays pour les revendre ailleurs. Ce qui explique aussi d'ailleurs le grand voyage. C'est aussi pour transporter les esclaves. Ça, c'est un premier point. Donc, tout homme libre a le droit à la parole. Dans ces assemblées, on élit un représentant qui sera chargé non pas d'être le chef, mais de coordonner la mise en application des décisions prises par l'Assemblée. C'est ce qu'on appelle le pouvoir exécutif par rapport au pouvoir législatif. La justice, elle, sera rendue par l'Assemblée. Et là, on a un mélange entre le judiciaire et le législatif, ce qui peut poser problème. Enfin, là, c'est un constitutionnaliste amateur qui parle, hein. C'est un peu facile. Au niveau des cantons, on a des assemblées qui réunissent les responsables de chacun des cantons et qui eux-mêmes s'élisent un chef qui vérifie que tout le travail décidé a été fait. A priori donc, on a une forme d'égalité sociale. Mais ce qui modifie complètement le paradigme, c'est lorsque vous avez un chef qui a fait une très belle expédition de pillage, qui a ramené des grosses richesses il peut créer autour de lui un réseau d'affidés. C'est mafieux, tout simplement. De gens qui lui doivent quelque chose. Moyennant quoi, ces gens seront toujours d'accord avec lui. Et du coup, on a une nouvelle forme de féodalité qui apparaît. Mais avec une différence, c'est que ce n'est pas une féodalité de droit divin, on va dire, comme le roi qui est représentant de Dieu, etc. On a les gens méritants deviennent les chefs, et avec des sous-chefs qui sont les gens un peu moins méritants, ce qui nous mène à, comment dire, un système politique libéral, comme nos sociétés en connaissent aujourd'hui, et comme on le fourvoie volontiers. Alors ça, le point donc est passionnant, c'est que on est dans une structure sociale où tout est possible, personne n'est bloqué par sa condition sociale.
À partir du moment où il n'est pas esclave.
À partir du moment où il n'est pas esclave.
Donc, est-ce qu'il y a, en quelque sorte, dans cette description de la société viking, il y a une sorte de cohabitation entre à la fois la famille, le clan, et l'assemblée?
Oui.
Qui regroupe, j'imagine, plusieurs familles, plusieurs
tout
clans
fait,
sur un
fait.
Territoire. Oui. Et cette assemblée élit un chef qui va mettre en œuvre, en quelque sorte, les décisions de l'assemblée.
Un chef sous contrôle. Mmh. En fait, l'individu n'existe pas non plus. Chacun a son rôle. Mais quand je disais tout à l'heure que la peine de mort n'existe pas et que le bannissement était bien pire, le bannissement, ça veut dire que tu t'en vas et si quelqu'un te rencontre, il a le droit de te tuer. Tu t'en vas, tu n'as pas plus de valeur qu'une bête sauvage rencontrée dans la nature. Donc, si un individu ne peut pas se prévaloir de sa famille, il n'existe plus. Ça, c'est un premier point. Et deux, chacun est responsable des actes de l'autre dans la famille. Ça nous amène à ce que l'on connaît en Corse, ce que l'on connaît en Calabre. C'est le système des vendetta inimaginables qui se mettent en place et des vengeances qui durent des générations. On n'y échappe pas.
Alors, vous nous expliquez l'organisation de la société viking avant cette épopée, fin du 8e siècle, avant cette épopée. Et vous nous expliquez que, bien entendu, il y avait déjà des échanges, du commerce, des raids, etc. Ces expéditions, elles étaient décidées sur le plan familial, par le chef de la famille, le chef du clan, ou elles étaient décidées par l'assemblée?
Les deux, mon général. C'est pas si simple que ça. D'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un bateau capable de partir de Scandinavie pour aller ne serait-ce qu'en Angleterre, c'est un bateau de haute mer. Aujourd'hui, ça correspondrait à acheter un avion de ligne. Vous imaginez donc, j'exagère un peu, mais qu'importe, vous imaginez donc le capital que ça représente à l'origine. Premier point. Deuxième point, pour armer ce bateau, pour une razzia quelconque, il faut bien 40-50 personnes, 40-50 adultes ou garçons capables de tenir une épée. Ce qui veut dire aussi que du coup, on abandonne la terre pendant la bonne saison. C'est encore un autre problème. Tout dépend aussi de ce que l'on a envie de faire. S'agit-il d'aller en Angleterre razzier une abbaye ou un village, il faut 40 personnes. Lorsqu'il s'agira plus tard de remonter la Seine pour assiéger les rois francs dans leur capitale, qui est l'actuel Paris, là, ce sont des dizaines de milliers de vikings qui descendent. Et là, c'était un mystère pendant longtemps. Aujourd'hui, on sait que tout cela était cadré par une loi qu'on appelait le Ledang, qui correspond à une levée navale où, je schématise, dans une structure qui partait du canton, on va dire, à un état quasi national, chaque canton était tenu de tenir prêt, dès les beaux jours, un bateau armé avec son équipage qui rejoindrait d'autres pour former une flottille, qui formerait une flotte pour aller attaquer. Ça peut être l'Angleterre où ils renverseront des rois, ça peut être la France qu'ils viendront mettre à feu et à sang et rançonner.
À vous écouter, il y a vraiment une nation viking. Ou plusieurs nations.
Ce que je vous raconte là, c'est bel et bien le fonctionnement d'une nation, oui.
Ce que vous décrivez. Les dieux, quelle religion ont-ils? Parce que les Normands vont se convertir à la religion chrétienne. Enfin, les Normands, parfaitement, avec Roland. Mais au départ, avant le démarrage de cette épopée, au 8e siècle, quelle est leur religion? Qu'est-ce qui caractérise leur religion?
Eh ben déjà, c'est une mythologie qui existe, qui est en fait celle de la vie elle-même, d'ailleurs. Les catégories sociales ont été créées, d'ailleurs. La légende veut que le dieu Thor est descendu sur Terre, a passé une nuit dans une maison, et puis le lendemain dans une autre, et puis ensuite encore dans une autre, et puis il a fait trois fils, dont l'un était fait pour être chef, l'autre a été fait pour un homme libre, et le troisième pour être un esclave. Et ceci s'est reproduit depuis dans toutes les familles. Donc déjà, on a un rapport entre les dieux et la terre, qui est évident. Ensuite, les rapports que les Vikings ont avec leurs dieux, c'est du rapport donnant-donnant. Je veux bien croire en toi de te faire un sacrifice, mais attention, hein, je veux quelque chose en retour. Je ne l'ai pas eu, je suis fâché.
Mais ce ne sont pas des mystiques. Hein, c'est ce que
ah, ce n'est pas des mystiques. Non, c'est vraiment du business. C'est vraiment du business. Alors, en revanche, lorsque, négociant du côté de l'Europe, ils voient des gens qui, eux, croient en un autre dieu. Ils vont même dans des églises. Les Vikings n'ont pas de temple, hein. Les questions de culte, de sacrifice, on fait ça sur un rocher, un coin de bois, une clairière, un endroit qui se prête à rassembler du monde, parce que tout se termine en banquet, en libation, évidemment. Là, ils observent autre chose. Des gens qui vont régulièrement dans des temples assister à une messe avec des objets de culte en or, en argent. Alors ça leur donne des idées, parce qu'une religion qui fonctionne avec des fidèles qui ont de telles richesses, ça dit que leur dieu doit être vachement puissant. Donc, attention. Et les Vikings se disent que, mon Dieu, si pour emporter une affaire, il serait mieux d'être baptisé, où est le problème? Ce qui fait qu'être baptisé plusieurs fois, ça ne dérange absolument pas. Alors, par la suite, ce qui va se passer petit à petit quand même, c'est que la religion chrétienne va devenir prégnante, va amener d'autres éléments à la vie de société, va du coup amener la féodalité, et la fin de la civilisation viking, tout au moins en Europe, elle va venir de là, d'une assimilation à la féodalité européenne.
Avant d'en arriver aux causes, hein, aux facteurs déclencheurs de cette épopée, à la fois vers l'ouest, vers le sud et vers l'est, Dominique Lebrun, tel que vous la décrivez dans votre livre « L'épopée viking 793-1066, trois siècles pour l'éternité » aux éditions Vibert, je voudrais que vous nous évoquiez plus particulièrement ce que sont ces hommes. Est-ce que ce sont au départ des paysans? Est-ce que ce sont des commerçants? Est-ce que ce sont des guerriers redoutables? Le viking, rien que le nom fait frémir tout le monde. Qui sont-ils réellement et qu'est-ce qui va faire leur force? Qu'est-ce qui va faire qu'ils vont se faire remarquer comme des guerriers redoutables, invincibles?
Alors déjà, on a cette forme de dichotomie entre le paysan et le navigateur. Je me suis vite rendu compte que c'était une grave erreur que de considérer que parce qu'on était paysan, on n'était pas marin, et l'inverse. Non, en fait, ce sont des gens de la nature, et qui donc sont capables de cultiver un champ et éventuellement de tracer un sillon, comme sur un bateau de savoir tracer un sillage. Ce sont les mêmes. À l'époque, la vie est rude, donc devenir un combattant en étant déjà un paysan et un homme de mer, ça coule un peu de source. Ils sont tout à la fois. Là où la chose est plus complexe, c'est comment ces gens qui sont réputés bons commerçants peuvent-ils aussi être des pillards? Et là, on est obligé de se dire, mais qu'est-ce que je ferai à leur place? Je vais négocier avec des gens qui sont un peu retors, qui veulent me vendre beaucoup trop cher leurs marchandises. Et en plus, ils sont complètement ridicules de se comporter comme ça vis-à-vis de moi, puisque j'ai dans mon bateau une hache et une épée. Si j'ai pas envie de les payer, je leur coupe la tête et je m'en vais avec la marchandise. Et j'imagine que c'est de cette façon qu'un jour ou l'autre, des Vikings sont passés à la violence. Maintenant, attention, pas fou non plus. Si je pars sans payer, schématiquement ou en tuant, et que je reviens, je n'aurai aucune marchandise approchable. Donc, mon Dieu, quand il faut payer, payons. Si à l'occasion il faut tuer, eh bien tuons. Mais on n'est ni l'un ni l'autre, on est tout à la fois, l'occasion fait le larron, comme on dit. C'est difficile d'être formel dans une description des Vikings, en fait.
Mais qu'est-ce qui fait leur force?
Alors, qu'est-ce qui fait leur force? On a parlé de leur physique pendant un bout de temps. On sait aujourd'hui qu'ils n'étaient pas beaucoup plus grands que les gens qu'ils trouvaient en face. En revanche, ce qu'ils avaient et que leurs adversaires n'avaient pas, c'est qu'eux étaient actifs, c'est-à-dire qu'ils attaquaient pour piller. Et les autres, à chaque fois, étaient surpris et soit se défendaient avec leurs pauvres armes parce que c'était des hommes d'église ou parce que c'était des paysans. Ils avaient rarement des hommes d'armes, c'est-à-dire des mercenaires payés par un seigneur pour les défendre. Si tel était le cas d'ailleurs, les Vikings ne s'approchaient pas, ils allaient voir ailleurs. Ils évitaient systématiquement les batailles rangées pendant un bout de temps, jusqu'au jour où ils ont été contraints de se battre un peu en terrain découvert, et du coup ont mis au point des tactiques de bataille, dont le summum sera atteint à Hastings d'ailleurs. Là, ils auront appris entre-temps. Mais autrement, ils évitent des contacts. Ce sont des espèces de francs-tireurs qui se faufilent à une vitesse extraordinaire le long des cours d'eau avec leurs bateaux. Ensuite, ils apprennent à transporter leurs petits chevaux scandinaves dans leurs bateaux pour avoir une cavalerie et couvrir plus vite de l'espace pour piller et repartir très très vite. À l'origine, ce sont toujours des coups de main très rapides. Le pouvoir seigneurial n'a jamais le temps de réagir à temps. C'est la raison pour laquelle ils sont tellement craints. En plus, c'est qu'on a à peine eu le temps de les voir qu'ils sont partis, et ils sont partis en faisant un véritable massacre. Donc du coup, l'Église en fait de véritables personnifications du diable, on les traite de loups dans la bergerie, etc., etc. Dans le même temps, les Vikings, eux, ayant constaté qu'on a plutôt tendance à avoir peur d'eux, ne sont que encouragés par ce comportement couard. Donc la machine s'auto-alimente.
Ce que vous nous expliquez, Dominique Lebrun, c'est que la force des Vikings, ce n'est pas particulièrement leur armement, mais c'est leur mobilité grâce à leur bateau. Ils peuvent faire des coups de main, être en surnombre endroit, à un moment, très rapide, et puis repartir.
Tout à fait.
C'est ça leur force.
Tout à fait.
C'est cette mobilité. Leur armement, vous le précisez dans votre livre, hein, leur armement n'a rien d'exceptionnel. Et ça, on l'a découvert notamment parce que les chefs se font enterrer avec tout l'équipement nécessaire pour partir en campagne.
C'est
l'une des sources d'information.
C'est merveilleux.
Ce sont les tombes.
Ce sont les tombes.
Tombes vikings.
Mais les bateaux vikings eux-mêmes, donc les grands modèles qui sont exposés à Oslo.
Ils sont enterrés dans leurs bateaux.
Mais oui, absolument. Et tout cela dans de la terre glaise qui les a conservés. Ce qui fait qu'on a pu avoir de cette façon-là un dessin, non seulement le dessin de ces bateaux, mais leur mode de construction.
Alors vous écrivez que l'arme la plus emblématique, j'imagine qu'on en a retrouvé beaucoup dans ces tombes, c'est la hache.
Alors c'est la hache, c'est la hache de guerre qui est à double tranchant, mais la hache est un outil qu'ils utilisent énormément et sous diverses formes. Ils possèdent plusieurs formes de hache pour travailler le bois. Et donc c'est, comment dire, entre fendre une bûche et fendre un crâne, pour eux c'est un peu, la même technique, si j'ose dire.
Et puis aussi la tapisserie de Bayeux.
Alors la tapisserie de Bayeux est un outil fantastique d'analyse de l'armement, de la construction du bateau. Là, on a tout, toute l'histoire viking. En plus, comme ça se passe à l'apogée, à la fin, on a absolument tous les éléments, y compris les couleurs.
Oui, c'est une centaine d'années après Roland, en quelque sorte.
Absolument, absolument.
Donc, c'est très proche. C'est étonnant, en effet, quand on regarde la tapisserie de Bayeux et les bateaux, les bateaux qui sont représentés, c'est le bateau viking, en fait.
Ah, tout à fait.
C'est incroyable.
Alors, ça, c'est passionnant, d'autant plus qu'on a dans d'autres séquences de la fameuse tapisserie. Alors, d'abord, ce n'est pas une tapisserie d'air. On dit tapisserie de Bayeux, mais en fait, c'est une broderie. Hein. C'est une broderie en deux types de points sur une toile de lin. Mais je ne sais pas pourquoi on dit tapisserie, mais c'est qu'importe. Le fait est qu'on a en détail la construction du bateau, mais on a les bateaux seulement vus par le travers. On n'a que des silhouettes. Pour savoir la forme concrète qu'avaient ces bateaux, il a fallu que l'on tombe donc sur Osberg et la fameuse tombe à côté d'Oslo pour avoir donc la forme extraordinaire, très très fine de ces carènes qui a fait comprendre d'un seul coup pourquoi ces bateaux avaient quelque chose de magique pour leur temps, d'extraordinairement moderne, puisque ce sont des carènes qu'on retrouve aujourd'hui pratiquement, oui.
Alors, puisque vous l'évoquez, je vous propose, puisque c'est aussi la grande force des Vikings, cette mobilité grâce à leur bateau. Vous avez tout un chapitre de votre livre, Dominique Lebrun, L'épopée viking aux éditions Vuibert, tout un chapitre consacré à l'art de marine. C'est une de vos spécialités, et à l'art d'ingénieur de marine, si l'on peut dire, qui est assez exceptionnel quand on évoque celui des Vikings. Alors, pouvez-vous évoquer leurs bateaux, ce qu'ils ont d'exceptionnel, ces bateaux? Il y a deux deux types de bateaux. Il y a un qui fait à peu près 20 mètres, l'autre qui fait 40 mètres, bateau de guerre, bateau de haute mer, etc. Et comment, comme c'est des petites embarcations, très basses sur l'eau, comment ces bateaux ont-ils pu affronter la mer, les tempêtes, d'une manière aussi incroyable?
Alors, je vais répondre à la deuxième partie de la question, bon, qui est comment ces bateaux très bas affrontent des mers qui sont redoutables, comme celle de l'Atlantique Nord. La réponse est d'abord dans un constat. Les bateaux, à partir du Moyen-Âge, deviennent des espèces de châteaux forts flottants qui se prétendent plus forts que la mer. Mais la mer est quelquefois la plus forte. Les bateaux vikings ne fonctionnent pas du tout de la même façon. Ce sont des bateaux qui sont prévus pour composer avec les mouvements de la mer. Ce sont des coques qui se déforment. Ce sont des coques qui sont comme une mouette posée sur l'eau dans la tempête. Il ne lui arrive rien. Ces bateaux-là peuvent couler, et c'est arrivé souvent, bien sûr. Mais le fait qu'ils soient bas sur l'eau n'est absolument pas un problème. Les vagues ne s'y opposent pas. Elles passent des deux côtés. Et par mer arrière, pareil, puisque l'arrière, ce sont des bateaux symétriques. Donc, ce sont des bateaux qui sont naturellement marins. Attention, pour leur équipage, en revanche, c'est terrible. Les reproductions que l'on a pu faire de ces bateaux-là ont fait des terreurs, des frayeurs à leurs équipages. Le bateau tenait, mais les bonshommes, eux, étaient juste effrayés de voir le bateau se tordre dans tous les sens, monter, descendre. Mais en réalité, il embarque relativement peu d'eau, bien qu'il soit complètement ouvert, et finalement étale très bien. Ça, c'est donc pour la
étalé, vous êtes marin.
Oui, c'est le terme, et il supporte très bien. Bon. Maintenant, comment sont-ils construits? Là, la chose devient tout à fait originale et passionnante. Quels que soient ces bateaux de transport, qu'on appelle grosso modo, qu'on appelle des knors, ou des knars plutôt, knars au pluriel, bateaux de guerre qu'on appelle longship, l'équivalent de longship, long bateau, en anglais, dirait-on. Ils sont construits pareil. Et leur construction est quelque chose de complètement unique dans l'histoire de la construction navale. Vous avez ce qu'on appelle des sculpteurs d'étraves qui, dans un bloc de bois, vont sculpter l'avant et l'arrière du bateau de telle sorte que les formes qu'ils donnent sur ce moule vont permettre de poser des planches qui, en étant fixés devant et derrière et atteignant une courbe naturelle de ces simples formes, vont donner la forme au bateau. Et ensuite seulement, on mettra une charpente pour rendre pérenne la structure ainsi faite. C'est une méthode de construction qu'on appelle le bordé premier. La méthode aussi est que les planches se superposent entre elles. Un bateau de fait chez nous, les planches qui le composent, les bordées, sont jointifs, calfatés éventuellement avec un joint pour que l'eau ne passe pas. Là, ça se recouvre, c'est beaucoup plus étanche comme ça. Et tout tient en fait au talent du sculpteur qui a taillé dans un bloc de bois énorme les traves et les tambours. Les tambours, c'est l'arrière. Et ça, c'est un mystère. Comment quelqu'un, sans doute enfant, en voyant travailler un autre, pouvait-il intégrer à la fois les gestes qu'il faut faire pour obtenir cette pièce et surtout mémoriser les formes en trois dimensions pour aboutir à la conception du bateau? Alors, pour ma part, j'ai découvert ça de visu à Roskilde, au Danemark, où il existe un musée viking qui est aussi une école et un centre d'architecture navale et d'archéologie navale. J'ai vu tailler ce genre de choses. J'ai donc questionné le garçon qui taillait à coups de hache et d'herminette. L'herminette est une forme de hache. Il m'a dit il faut apprendre à voir la forme et à la reproduire. C'est de la sculpture pure, sauf qu'on n'a pas le droit d'inventer.
Comment le bateau peut-il se déformer? Vous dites en plus de manière impressionnante,
oui,
puisqu'il y a on a bâti des dracars, on a navigué avec, donc ça a été constaté en effet. Comment le bateau peut-il se déformer sans se briser?
La souplesse du bois l'explique, et surtout la façon dont ce bois a été débité. Chez nous, dans les pays modernes, aujourd'hui, on prend un tronc et avec une scie électrique, on en fait des planches. Moyennant quoi, on coupe le fil du bois et le bois perd une grande partie de ses qualités, notamment essayer donc de trouver une planche de pin qui ne soit pas cintrée dans un sens ou dans l'autre. Pour avoir une planche droite, c'est un bois reconstitué généralement. Les Vikings fendent le bois. Et là aussi, ils ont des spécialistes pour fendre le bois, c'est-à-dire qu'ils savent enfoncer des coins là où il faut, comme il le faut, dans l'ordre qu'il faut, pour que le bois de lui-même se débite en des quartiers que l'on peut refendre jusqu'à obtenir des planches. Ensuite, on assemble ces planches qui sont très grossières, évidemment, mais qui ne perdent aucune de leur qualité et de souplesse et de solidité. Et une fois qu'elles sont assemblées seulement, avec l'équivalent d'un rabot ou d'une herminette qui est une hache avec un fer perpendiculaire aux manches, on affine tout ça pour obtenir une carène lisse. Mais on procède tout à fait à l'envers de ce que l'on fait dans les pays occidentaux ensuite au Moyen-Âge.
Vous évoquez dans votre livre, Dominique Lebrun, deux types de bateaux, un de 20 mètres et un de 40 mètres.
En moyenne.
En moyenne, oui. Quels sont ceux qui sont utilisés pour les expéditions? Combien sont-ils à bord? Combien de temps partent-ils? Vous précisez qu'ils passent l'hiver en territoire franc, par exemple, lorsqu'il s'agit de faire des raids en Francie. Et ils passent l'hiver sur une île ou dans un endroit à peu près. Ils ne reviennent pas en Scandinavie. Alors, combien de temps durent ces raids en général?
Alors, en fait, les traversées sont rapides. Entre l'ouverture sur la mer du Nord d'une Danemark et les îles britanniques, il leur faut moins de 48 heures. S'ils sont poussés... Alors, en plus, j'en parle pas dans le livre parce que ce sont des spéculations sur lesquelles je n'ai pas d'éléments historiques fiables. Mais je pense qu'à l'époque, les régimes météorologiques sont beaucoup plus réguliers qu'ils ne sont aujourd'hui. Nous-mêmes, moi je me rappelle quand j'ai commencé à naviguer dans les années 70, ce qui fait donc un demi-siècle, dans les années 70, on savait que dans l'année, on avait des intrusions, des anticyclones qui se faisaient à des dates régulières. On savait qu'à l'automne, pendant quelques jours, l'anticyclone de Scandinavie arrivé ne faisait du nordais qui durait quelquefois 3, 6, 9 jours, quelquefois un peu comme le Mistral. En hiver, on avait le même type de phénomène. Je pense qu'à l'époque des Vikings, c'était encore plus régulier, ce qui fait qu'on savait qu'à telle époque, on avait des chances d'avoir des vents de telle direction et ça permettait et de descendre dans un sens et de remonter dans l'autre, ce qui leur permettait d'être très souples. La raison pour laquelle ils ont décidé, au bout d'un certain temps, d'hiverner sur place, c'est que ça leur permettait d'occuper le terrain. Peut-être d'ores et déjà, y avait-il des difficultés d'espace chez eux, de surpopulation, en quelque sorte. C'est possible. Mais je pense que c'était aussi pour occuper le terrain. Ils se disaient, je m'installe sur une île. Alors, ces îles étaient bien choisies. Par exemple, en Bretagne Sud, ce sont des îles qui sont en face d'estuaires, qui donnent sur des rivières qui entrent très profondément dans les terres.
Par exemple, Groix ou...
L'île de Groix, par exemple, ça vous donne sur la baie de l'Orient d'un côté, avec le Scorff et le Blavette. Et puis vous avez d'un autre côté, si vous descendez côté Belle-Île ou à Tédic, vous avez la Vilaine en face, vous remontez jusqu'à Rennes, comme ça. Si vous êtes plus bas, Noirmoutier, c'est la Loire. Alors la Loire, là, c'est le cœur de la France. Et les Vikings l'ont fait. Leur idée était que s'ils faisaient des raids et qu'ils quittaient le terrain, en revenant, ils risquaient peut-être de tomber sur un château fort qui avait poussé sur ce qui était une bonne base de repli. Par ailleurs, les Vikings font leurs incursions avec des bateaux de guerre. Ces bateaux de guerre sont remplis de gens qui rament et vont plus souvent à l'aviron qu'à la voile d'ailleurs. S'ils font un butin un tout petit peu important, ne serait-ce qu'une dizaine d'esclaves, ils ont pillé une cave avec de la charcuterie, quelques barriques de vin, ce genre de choses, ils n'ont pas de place pour l'emporter. Donc il leur faut une base arrière, une île c'est parfait puisque l'adversaire franc ne possède pas de marine pour les attaquer, et à ce moment-là, on a des Knorr, donc des bateaux de transport, qui arrivent depuis la Scandinavie avec un équipage de 5-6 personnes seulement ceux-là, et qui vont à la voile pratiquement uniquement, qui sont gros ventrus dans lesquels on peut charger tout le pillage pour le ramener au pays. Donc, grosso modo, on a ces Knorr qui font entre 15 et 30 mètres. Je pense que les gros Knorr qui ont fait la conquête de l'Atlantique Nord, c'est-à-dire les traversées vers l'Islande et de l'Islande au Groenland, de Labrador, c'était des bateaux qui devaient faire 25 mètres. 25 mètres, c'est déjà une jolie coque quand même. Hein. C'est solide. Et quant aux Longskip, pardon, les bateaux de guerre, les plus grands faisaient jusque 40 mètres. Et là, c'est juste énorme. Et ils ont embarqué une centaine de personnes, éventuellement.
Une centaine de vikings.
Ça pouvait aller jusque-là, oui.
Et leur raid, à combien de bateaux, justement, ensemble
On a des chiffres. L'expédition des Danois qui vont passer en Méditerranée et aller jusque... Ils pensent attaquer Rome, mais ils se trompent de ville. C'est assez drôle, mais... Enfin, c'est assez drôle. Non, c'est pas drôle, ce pillage-là, mais qu'importe. C'était quand même de l'ordre d'une quarantaine de bateaux qui partaient. Oui, 40 bateaux fait... avec 20 à 40 personnes à bord de chacun. Ça vous fait du monde, quand même.
Ça fait, en effet, une armée...
Ça fait une petite armée. Et à l'époque, oui, ça fait une vraie armée. Oui. Alors, l'autre élément passionnant, justement, et que sur lequel on n'a pas de réponse encore, lorsque l'on regarde, et c'est ce que j'ai fait pour écrire ce livre, j'ai fait des grands tableaux pour ce qui est des raids danois en France, avec d'un côté les dates et de l'autre côté les lieux. Et c'est passionnant parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a une coordination de tout ça en haut lieu. Comme dans une grande guerre moderne aujourd'hui. A priori, ce n'est pas possible. Il n'y avait ni les communications. Il pouvait éventuellement avoir des coursiers qui passaient l'un à l'autre, mais je n'y crois pas. Le fait est que ça donne vraiment l'impression d'une organisation extraordinaire pour être partout à la fois.
Alors Dominique Lebrun, dans cette première partie d'émission, vous nous avez décrit ce qu'était la civilisation et la culture viking, avec la géographie, leurs implantations, Suède, Norvège, Danemark, unis par une langue commune, une société démocratique à la sauce de l'époque, bien entendu, d'hommes libres.
On peut dire
d'hommes libres qui élisent leur chef. Oui. Et parallèlement à une structure familiale et clanique, vous nous avez expliqué que leur force ne tenait pas tant à l'armement, mais à leur mobilité, leurs bateaux, les bateaux extraordinaires, très en avance par rapport à ce qu'on pouvait trouver ailleurs. Ces bateaux qui leur permettaient, en quelques jours, deux jours, avez-vous précisé, de rejoindre l'Angleterre, quelques jours de plus pour rejoindre la France, par exemple, à partir du Danemark. Et ces raids qu'ils faisaient à une quarantaine de bateaux, ce qui était une force en effet très conséquente, des raids qui les amenaient à se réfugier l'hiver dans une île, et vous imaginez des norias de bateaux de transport amenant le butin de cette île jusqu'à leur zone de départ, donc en Scandinavie. Je vous propose, juste avant la pause, une dernière question, avant une façon de petite pause de quelques secondes pour un message, c'est juste que vous nous précisiez, maintenant que nous avons compris, grâce à vous, les traits principaux, les caractères principaux de la société viking, de sa force, eh bien, que vous nous expliquiez quels ont été, ils ont été différents d'ailleurs, selon la Suède, la Norvège ou le Danemark, quels ont été les facteurs déclencheurs de ces trois siècles d'épopée viking. Pourquoi, tout d'un coup, ils apparaissent?
On ne sait pas réellement. Il n'y a pas eu un événement donné à une époque donnée. Alors, lorsque je dis donc début de l'épopée viking, l'attaque de l'abbaye de Lindisfarne en 783, d'accord, mais c'est un événement que l'on repère. On sait que quelque temps auparavant, il y avait eu d'autres pillages, mais on sait aussi que les vikings déjà fréquentaient ces coins-là. Pourquoi brutalement ça se déclenche? On ne le sait pas réellement. La chose frappante, en tout cas, c'est que pour les trois nations et les trois directions différentes, ça se passe à la même époque. Très vraisemblablement, mais ceci relève de la spéculation plus que de l'affirmation historique, très vraisemblablement des changements climatiques, un adoucissement notamment, ont abouti à la fois à une meilleure facilité de navigation, d'une part, et ensuite à un accroissement de la population. Et trois, c'est aussi sans doute à ce moment-là que les bateaux des Vikings sont devenus des bateaux de mer capables d'aller à la voile, alors qu'avant, ils ne l'étaient pas tout à fait. Mais ceci reste, comment dire, accompagné d'un grand point d'interrogation.
Vous évoquez aussi un facteur politique pour les Vikings norvégiens. Certains d'entre eux n'ont pas accepté...
C'est plus tard, ça.
C'est plus tard, la domination d'un roi.
Alors ça, c'est effectivement...
Qui l'a poussé à aller vers l'Islande,
l'unification de la Norvège, comme le raconte l'histoire officielle norvégienne, qui est en fait un chef des kings, qui veut devenir chef à la place de tous les autres chefs, et d'unifier la Norvège, ce qui veut dire mettre l'ensemble de la Norvège à sa botte, à râle de beaux cheveux.
C'était quand ça?
Ça, c'est vers 800, un petit peu plus tard. Ouais. Et c'est ce qui va déclencher ce grand mouvement. En revanche, on a ce mouvement-là. Mais beaucoup d'historiens contestent le fait que la volonté d'unifier la Norvège ait été la seule raison. Mmh. Et ils y ajoutent plein d'autres, toutes celles que j'ai évoquées précédemment.
Donc il reste une part du mystère en la matière.
Heureusement.
Bien, nous écoutons, nous faisons une petite pause technique et nous reprenons cette discussion juste après.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, eh bien, nous avons le plaisir de poursuivre cette discussion avec Dominique Lebrun, qui est écrivain de marine à l'occasion de la publication de son livre aux éditions Vibert, l'épopée viking 793-1066, trois siècles pour l'éternité. Dans cette première partie des discussions, Dominique Lebrun nous a expliqué la constitution de cette société, de cette civilisation viking, sa force, le bateau, cette mobilité. Il a aussi évoqué les facteurs déclenchés de ces trois épopées, l'une vers l'Europe, l'autre vers les plaines, les steppes de ce qui est maintenant l'Ukraine, et puis plus tard Constantinople, qui va fonder la Rus, la Kiev, le royaume de Kiev, la Rus, Kiev. Les Rus étant justement ces Scandinaves, aussi appelés Varegs, ces Vikings suédois. Et puis il y a la troisième direction, la troisième épopée des Vikings de Norvège. Et naturellement, ils vont vers l'Islande, l'étape suivante c'est le Groenland, et enfin la découverte de l'Amérique, cinq siècles avant Christophe Colomb. Avant de rentrer dans ces trois épopées, eh bien, je vous propose de lire quelques messages d'auditeurs. Dominique Lebrun, si vous en êtes d'accord. Tout d'abord, une auditrice qui nous dit qu'elle a un souvenir ébloui du spectacle sur les Vikings donné au Puy du Fou, le Drakkar qui sort de l'eau et l'incendie de la tour après que les moines qui emportent les reliques de Saint-Philbert de Noirmoutier, je crois, s'y sont réfugiés.
Il est exact que... la façon dont on peut percevoir ce spectacle aujourd'hui doit être assez proche, frayeur en moins, que ce que les bons chrétiens de l'époque ont pu voir lorsque, de leur église ou de leur monastère, ils voyaient déferler ces horribles pillards venus du Nord. C'est effectivement.
Est-il vrai que les Vikings ont poussé leur raid jusqu'à Bagdad, nous demande cette auditrice, et que furent le lien des Vikings avec le monde musulman, s'ils ont existé? Peut-on penser que certains traits qu'on trouve en Afrique du Nord, blondeur, yeux bleus, seraient la trace d'invasion normande?
Alors, concernant Bagdad, oui, ce n'était pas un raid, c'était les dernières expéditions commerciales menées par des Varegs et qui se situent vraiment à l'extrême fin. Et ça venait du fait que l'on avait trouvé, remontant les fleuves justement, des monnaies d'argent et d'or qui venaient forcément de ces contrées arabes. Donc, c'est tout à fait vrai. Alors maintenant, expliquer, je pense donc aux Kabyles, les yeux bleus et autres, par une présence viking, pourquoi pas, hein.
Avant eux, il y avait c'était les Vandales, je crois.
De toute façon, oui. Il y a eu beaucoup d'autres fréquentations nordiques que les Vikings.
Donc c'est et du blond aux yeux bleus.
les grands mystères de la génétique, quand même, nous dépassent aussi.
Et l'auditrice, que pense votre invité de l'appellation de Groenland Terre Verte donnée par Éric le Rouge et qui exploite les climato-sceptiques? On peut peut-être imaginer qu'il y avait des prairies au bord de la mer sur ce vaste continent. Vous en parlez dans votre livre.
Oui.
C'est pas comme aujourd'hui, surtout s'ils sont allés en été, le nom de Groenland n'a peut-être pas plus de valeur que le toponyme Islande, île qui, sauf erreur de ma part, n'est pas recouverte entièrement de glace.
Alors, Groenland, on a dit que, et c'est une erreur, que Éric le Rouge avait inventé un argument publicitaire pour attirer du monde. En fait, si on considère le nombre de ruines, de fermes, d'églises qu'on a trouvées dans les implantations vikings du Groenland, non, le pays était bel et bien vert. Et le climat groenlandais d'aujourd'hui, qui redevient très très vert aussi, est très certainement celui que les Vikings ont connu. Donc il n'y a pas de souci. Alors quant à l'Islande, ce n'est pas l'Islande qui était recouverte de glace, ce sont ces glaciers et qui se voyaient de très 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 loin. C'est la raison pour laquelle on a appelé cette île l'île de glace, Iceland.
toujours de l'étrice, quel regard votre invité porte-t-il sur la série Viking, certes romancée, mais qui montre bien leur audace, leur génie, leur violence, mais aussi, à mon sens, une spiritualité très marquée.
La série Viking est tout simplement géniale. Elle est complètement fausse historiquement, mais dans le fond, elle est absolument juste. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, les réalisateurs ont repris tous les ingrédients concernant l'histoire des Vikings et la civilisation viking, mais l'ont remonté dans un autre sens pour faire quelque chose de compréhensible. Pour moi, c'est une série que j'ai regardée avec un bonheur fou et sur laquelle je me garderai bien d'avoir trop de critiques. Et sur la spiritualité, excusez-moi, c'est un peu outré, mais ça ne doit pas être faux. En revanche, le look mi-huron, mi-huroquois, mi-loubar de Vikings est sans doute faux.
Vous y croyez moins?
J'y crois moins. Enfin, on m'a dit que ce n'était pas vrai.
Ils sont mieux décrits dans Astérix.
Ah, c'est la série, ceux qui cherchent à avoir peur de façon à savoir voler, oui, absolument.
Dominique Leprince, je vous propose qu'il nous reste 30 minutes à passer en votre compagnie, que nous abordons les trois épopées.
Avec plaisir.
Laquelle souhaitez-vous aborder en premier?
Ça n'a pas grande importance, sauf qu'il y en a peut-être une qui permet d'évoquer mieux les autres. Non, je ne pense pas, on peut commencer comme vous voulez.
Bah, commençons par l'épopée en territoire franc, alors, si vous voulez bien.
Alors,
le territoire franc et l'Angleterre, hein, parce que c'est le début.
Oui.
1793, d'ailleurs, vous allez nous expliquer pourquoi vous avez choisi cette date, hein, comme date de démarrage de l'épopée viking. Et tout simplement, c'est l'Angleterre, tout d'abord.
Oui. Alors pourquoi 1793? Eh bien, pour faire comme les autres. Dans la perception globale que tous les historiens ont de la question viking, on dit que l'épopée commence quand on commence à entendre parler d'eux comme pillards. Et l'événement effectivement marquant, c'est le pillage d'une abbaye à Lindisfarne, donc sur la côte nord-est de l'Angleterre, qui est tout à fait révélatrice de ce qui se passera par la suite. Alors, pourquoi les Danois vers l'Angleterre et vers, appelons ça la Francie, donc, ou le nord de l'Allemagne, de l'actuelle Allemagne, tout simplement parce que c'est ce qui est le plus logique, c'est ce qu'il y a en face. Attention, le Danemark donne aussi sur la Baltique, mais sur la Baltique, un, c'est plus fermé, et deux, ils entreraient en concurrence, on va dire, avec les Suédois. Côté ouest, il n'y a personne. Ils y vont, évidemment. Alors, ils vont se heurter à une opposition différente en Angleterre et en France. En Angleterre, il va y avoir une véritable guerre de front qui fait qu'ils vont finir par déposer des rois et installer leur propre population. Alors qu'en France, on n'a pas du tout ça. On n'a aucune installation de population viking danoise en France. Ils viennent, ils pillent. En revanche, il arrive que des individus ou des collectivités s'installent dans un lieu, épousent des femmes locales, créent des familles et se fondent dans la population. Ce qui m'a même passé tout de suite à la fin. Donc j'ai évoqué les pillages concertés de la France, qui donc pour moi est toujours un véritable mystère. Mais ce qui est le plus frappant, c'est la fin de l'histoire, c'est-à-dire lorsque le roi de France décide, pour régler la question, de donner un territoire à des Vikings en leur disant « Je vous donne cette zone, c'est à vous, mais vous empêchez vos petits camarades de venir ». Et là, il se passe une chose merveilleuse, c'est que donc, nos pillards reconstruisent les monastères et les cathédrales détruites, et surtout, ils se fondent dans le système franc.
Alors, je voulais vous interroger
là-dessus,
Dominique Leprince, parce que c'est un peu difficile à comprendre. Lorsqu'on lit le chapitre consacré donc, aux Vikings et à leurs attaques sur les territoires francs, la résistance s'organise. Et finalement, une résistance qui est efficace. D'abord, c'est Charles le Chauve hein, contre le chef viking Vélande qu'il va soudoyer. Puis c'est la résistance du comte de Paris, Eudes. En 886, au siège de Paris, où il fait montre d'une très efficace bravoure. Ce sera l'une des raisons pour lesquelles il va devenir, d'ailleurs, roi de la Francie de l'Ouest, en 888. C'est ce que vous nous expliquez, en tout cas, Dominique Lebrun. Ce qui est encore... Alors, plus surprenant, c'est la naissance de la Normandie avec le chef viking danois Roland, qui tente d'assiéger Chartres. On est en 911. Il est battu à Chartres. Il est battu par Charles le Simple. Et malgré tout, malgré la défaite de Roland, pourquoi Charles le Simple va-t-il lui proposer de devenir justement comte de Rouen alors que Roland est battu?
Mais c'est très très fin.
On vous écoute.
Mais oui. Roland est battu, donc est prêt à suivre ce que le roi de France avait lui proposé. Qu'est-ce qu'il lui propose? Un territoire en schématillon passé dans son camp pour le défendre des autres. Pour le roi de France, c'est « je cède un peu et je sauve le reste ». Donc c'est une opération diplomatique qui est extrêmement subtile. Et effectivement, la chose tout à fait amusante, et c'est là où on voit les stratèges à long terme, c'est de se dire « je l'ai vaincu et je lui donne un territoire ». Effectivement, fallait y penser. Pour moi, c'est une grande finesse diplomatique.
Mais sous quelle forme cela se passe-t-il? Alors, parce que la question qu'on se pose aussi, il va le suivre, c'est le fameux traité de Saint-Clair
sur Epte.
Sur Epte, oui, il va lui donner un territoire qui recouvre Rouen, Évreux et Lisieux.
Dans un premier temps, oui.
Et Guillaume le Conquérant, c'est le petit-fils ou l'arrière-petit-fils de Roland?
L'arrière-petit-fils.
L'arrière-petit-fils, oui. de Roland. Mais la Normandie, enfin, elle n'était pas encore la Normandie, hein, mais Rouen, avec le comte de Rouen, Lisieux, Évreux, c'était déjà la féodalité. Il y avait déjà une noblesse qui appartenait.
Eh bien, tant pis pour eux.
Comment ça s'est passé? C'est ça qui est difficile à comprendre.
Ce qui est encore plus difficile à comprendre, c'est qu'on aurait pu se dire le roi impose au comte de Rouen une forme d'allégeance ou de cohabitation avec les Normands. On aurait pu penser que ça aboutirait à une forme de conflit, mais non. On a au contraire une espèce de fusion de tout ça. On a d'un côté les gens du terrain qui sont soulagés de ne plus avoir affaire à des attaques. On a de l'autre côté les attaquants qui viennent quand même de se prendre une défaite et qui se sont rendus compte que plus rien ne sera comme avant parce que l'armée franque existe bel et bien. Et c'est pour ça qu'on a cette espèce de miracle où on a le pragmatisme viking qui vient en fait utiliser la situation déjà existante. Au lieu d'apposer les lois et le système juridique viking, ils prennent le système juridique qui existe déjà sur place.
Ils se font baptiser, Roland se fait baptiser.
Et bien entendu, tout le monde se fait baptiser. À partir de là, il n'y a plus de problème. Et c'est là où on a, on touche avec ça l'essence même de l'esprit viking, c'est-à-dire le pragmatisme poussé au-delà de l'imaginable.
Je suis peut-être candide, pardonnez-moi, Dominique Leroy, mais j'imagine que le roi de France, Charles le Simple, lorsqu'il a vaincu les Vikings à Chartres, donc Roland, avait avec lui une partie de la noblesse normande, enfin, ce qui n'était pas encore la Normandie. J'imagine que dans l'armée franque, il y avait toute la féodalité franque qui régnait en quelque sorte sur cette partie nord-ouest de la France. On a beaucoup de mal à comprendre si, que tout soit pour ça passer.
Mais regardez donc la suite.
Comme un dîner de gala, comme disait le diplomate.
Non, ce n'est pas un dîner de gala, parce qu'il y a aussi des rivalités terribles entre les Francs. Regardez ce qui va arriver à notre Guillaume, pas encore le bâtard, mais le Guillaume.
Nous allons en parler. Mais là, comment ça s'est fait? Ça a été accepté, en fait, par la noblesse existante, par la féodalité existante.
Mais elle n'était pas unie, cette noblesse. Faut pas oublier ça non plus. On a des concurrences terribles entre les petits barons et autres. Ce qui se manifestera plus tard, la façon dont Guillaume le Bâtard manque se faire assassiner plusieurs fois, où il doit se réfugier dans un château puis dans un autre, c'est déjà comme ça. Donc, on est bien en France, vous savez, la féodalité ne fait pas qu'il y a une obéissance totale. On a des guerres internes qui sont terribles. En Bretagne, je peux vous en parler, c'est épouvantable comment ça se passait entre eux.
Malgré qu'il y a dû avoir des compensations.
Et des rapports de force temporaires. Plus les alliances entre familles.
Alors Dominique Lebrun, poursuivons cette histoire, puisque nous sommes sur la Francie et l'Occident. C'est vrai que les Vikings danois se sont installés longtemps, plusieurs siècles, en Angleterre, avant d'être, chassés. Oui. Nous en parlerons peut-être.
Avec beaucoup d'épisodes. C'est un domaine que je connais beaucoup moins bien. J'ai fait une impasse dessus.
Mais c'est l'une des raisons, peut-être, pour laquelle le roi du Danemark a été candidat à la succession, d'ailleurs, d'Édouard le Confesseur que vous évoquez.
Ça, ça nous aussi... ramène à Guillaume le Conquérant.
Voilà, nous arrivons à la fin, donc 1066, à la fin de cette épopée viking sur donc, l'Angleterre et la France qui va se terminer en effet par cette lutte pour la succession contestée d'Édouard le Confesseur. Et vous évoquez en effet la tapisserie de Bayeux qui raconte cette histoire et qui dit que Édouard le Confesseur avait désigné Guillaume comme son successeur et non pas Harold II et encore moins Harald III, donc le roi du Danemark.
Chacun prétendant avoir été désigné, mais il n'y avait rien d'écrit. Et
pardonnez-moi de Dominique Leroy, mais la question que je voulais vous poser, donc on connaît l'histoire bien sûr, et tous les auditeurs de Courtenay connaissent l'histoire, Guillaume le Conquérant est très fâché contre Harold, qu'il connaît bien, il se rencontre, il a hébergé Harold pendant plusieurs mois, et puis il y a donc Harald III du Danemark aussi, qui dit, l'héritier légitime c'est moi, et Guillaume lui dit, Harold devant moi fait serment que c'était moi que... Édouard le Confesseur avait désigné, Édouard le Confesseur qui n'avait pas d'enfant, qui n'avait pas de fils pour lui succéder. Et donc, on connaît l'histoire, Guillaume traverse la Manche avec ses bateaux vikings et puis combat Harold à Hastings. Il est tué à la bataille et c'est le début en effet de la conquête d'Angleterre et pour laquelle vous dites c'est la fin de l'épopée viking. Oui. Ma question de Dominique Lebrun, c'est sur la légitimité. D'après vous, qui était le plus légitime? Nous avons deux descendants des vikings très directs, qui sont un viking, Harald III, roi du Danemark. Nous avons Guillaume le Conquérant, arrière-petit-fils de Roland. Harold, je ne sais pas s'il est saxon ou viking, ce qu'il est exactement.
Il est très matiné de saxon, de toute façon.
Oui.
Je ne sais pas si la notion de légitimité se pose.
En tout cas, il l'affiche. Elle se pose quand même, puisque Guillaume se désigne comme légitime.
Il se désigne.
Oui.
Mais ce n'est pas pourtant légitime.
Oui, je pense que c'est ma question.
Il n'existe aucune promesse écrite, il n'existe aucun traité, il n'existe aucun témoin qui puisse manifester. On est tout simplement dans une bagarre pour prendre une place qui est à prendre. Je serais tenté de dire que le meilleur gagne, et en l'occurrence, le plus structuré pour le faire, le seul qui avait une chance de pouvoir conquérir l'Angleterre, c'est bel et bien Guillaume, dont l'armée et les bateaux ressemblent à une armée des bateaux vikings, mais c'est déjà une armée franque. C'est-à-dire qu'ils sont organisés en régiment, leur armement n'est plus le même, la stratégie de bataille n'est plus la même, c'est une stratégie de bataille ouverte. Roland a perdu devant Chartres. Entre-temps, ils ont appris la leçon. Hein. Et donc, les seuls qui ont vraiment une chance de pouvoir prendre l'Angleterre, et attention, la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant, ça va durer des dizaines et des dizaines d'années. Ça va être épouvantable. Parce qu'ils ne voudront pas, les Anglais. Ils n'en voudront pas.
Alors, cette victoire marque aussi la fin de l'épopée viking des Danois, qui ont été battus, eux d'ailleurs. Hein, ils ont été battus par Harold peu de temps avant que lui-même soit défait par Guillaume. On dit qu'il a perdu parce qu'il était fatigué. Il avait dû se battre contre
C'est assez. Il y a quelque chose de symbolique dans cette conjonction d'événements, effectivement.
C'est la défaite des Danois face justement à Harold qui signe la fin de l'épopée viking des Danois.
Si tant est qu'on puisse encore parler vraiment des vikings danois, puisque, ou plutôt danois, oui, mais vikings, eux aussi sont déjà entrés dans un système féodal, sont passés à la religion chrétienne, donc finalement, c'est plus les vikings d'avant. Mais évidemment, tout ça ne se passe pas du jour au lendemain, sur plusieurs années. Donc, je dirais les danois ex-vikings, si on veut.
Dominique Lebrun, Il nous reste un quart d'heure seulement à passer en votre compagnie et ça passe très très vite. Quelle épopée voulez-vous évoquer maintenant? Vous avez le choix entre la route de l'Ouest, Westweger, comme vous l'appelez, ou alors la Kiev de Rousse.
Je vais parler très rapidement des Vikings de Suède, parce que cette exploration de l'intérieur de l'Europe en passant par les fleuves et les lacs est à mon sens une expédition beaucoup plus difficile que la traversée de l'Atlantique, avec beaucoup plus de dangers. Ça a pris aussi beaucoup, beaucoup de temps, parce qu'en fait, ça consistait à prendre un fleuve qui sort d'un lac, remonter dans ce lac, voir s'il y a un autre cours d'eau qui arrive. Pas de chance, il y en a 3 ou 4, remonter chacun d'entre eux, trouver celui qui donne sur un autre, etc. Centraliser l'information, ça a été très très long et ça s'est fini en mer Noire. On dit que c'était essentiellement des administrateurs et que les peuplades locales leur ont demandé de venir. Oui, certes, c'est une belle histoire qu'on raconte après coup. En fait, c'est un peu la même affaire qu'en Normandie. Le savoir-faire viking, lorsqu'il s'agit de gouverner un territoire, a agi et ça aboutit donc effectivement un jour au premier tsar.
Alors vous dites effectivement, vous dites que les premiers tsars de Russie, la dynastie des Rurikides.
Des Rurikides, oui.
Descendent des Vikings, hein, oui. des Varegs.
Tout à fait.
Qui ont gouverné jusqu'en 1610.
Oui.
Ceux qui leur ont succédé, donc ce sont les Romanov, hein, avec Pierre le Grand.
Absolument.
Après, eux ont du sang viking dans
les veines. Je pense qu'à l'époque, les sangs sont très, très, très mêlés.
Oui, déjà.
Mais oui.
C'est comme la Normandie.
Les Varegs, la différence entre les Russes et les Varegs, c'est que les Varegs sont des gens qui sont déjà installés depuis longtemps. Non, c'est l'inverse. Les Russes sont des gens qui sont déjà installés depuis longtemps, qui ont épousé des femmes qui elles-mêmes. Et donc, en plus, dans le centre de l'Europe, on a donc un brassage de population qui est énorme. Donc, pour faire maintenant rapidement.
Alors, ces Varegs, pardonnez-moi une dernière question. Ces Varegs, donc ces Vikings suédois, qui sont partis l'exploration et la conquête de ces régions qui sont celles de l'Ukraine et de la Russie, maintenant sont allés jusqu'à Constantinople. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'ils sont à l'origine de cette alliance millénaire de Constantinople avec ce qui sera la Russie plus tard.
C'est
impressionnant quand même. C'est ces peuples vikings qui sont à l'origine de cette histoire.
Alors, ils sont, ce qu'il y a de stupéfiant, c'est la vitesse à laquelle, après avoir réussi à toucher la mer Noire et Constantinople, la vitesse à laquelle s'établissent très vite des accords commerciaux, des échanges, une organisation de la navigation sur les cours d'eau, et comment on a, à travers toute l'Europe, de la Baltique à Constantinople, un grand axe de commerce qui se crée. Pour moi, ça reste encore absolument merveilleux, ça me fait rêver, parce que, les axes du grand commerce international d'aujourd'hui, on les retrouve déjà à une autre échelle là, comme on le retrouve aussi sur le couloir rhodanien et celui du Rhin. C'est montré qu'en fait, l'Europe moderne existe depuis très 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 longtemps.
Et vous nous précisez qu'ils sont allés jusqu'à Bagdad, ce qui est encore
plus. Et ils ont poussé, ils n'ont pas allé jusqu'à Bagdad.
Je vous propose dans les petits quarts d'heure qu'il nous reste, Dominique Lombard, je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie,
il nous reste les Norvégiens.
Plaisir de vous recevoir pour votre livre, l'épopée Viking, 793-1066, 3 siècles pour l'éternité, que vous publiez aux éditions Gibert. Vous nous avez raconté effectivement les deux premières épopées, la première épopée qui va s'achever, c'est l'épopée danoise, hein, la route danoise, sur l'Angleterre et la France, et qui va s'achever par la victoire de Hastings, de Guillaume le Conquérant, l'arrière-petit-fils de Roland. Roland, malgré qu'il ait été vaincu par le roi de France, eh bien, le roi de France lui a confié la Normandie, d'où Guillaume, et d'où la conquête de l'Angleterre. Vous nous avez expliqué en quelques mots la conquête de l'Est, à la voie de l'Est, à la voie scandinave, jusqu'à Constantinople, même Bagdad, hein, et la fondation de la Russe de Kiev, qui est donc que l'on doit à ces Varegs qui vont donner les premiers tsars de la Russie jusqu'à la 1620. Et bien, je vous propose, dans les minutes qui nous restent, que d'aborder la troisième épopée, la troisième voie des vikings, celle de Norvège, que vous avez appelée Vestfager, sans doute le terme...
La route de l'Ouest.
Le terme voilà, qui caractérise, qui explique cette route de l'Ouest. Alors nous vous écoutons pour la route de l'Ouest qui va nous mener de l'Islande à la côte américaine via le Groenland.
Bah d'abord,
donc là, nous sommes toujours, pardonnez-moi, au 9e siècle. Hein, pour...
On est au 9e siècle, puisqu'en fait, la fin de l'histoire, c'est pratiquement en l'an 1000, l'installation à Terre-Neuve sur un site qui est connu aujourd'hui. En fait, ça commence en Norvège. On a évoqué plusieurs fois l'absence de peine de mort et la peine de bannissement. En fait, lorsque quelqu'un était banni mais avait des moyens, il pouvait très bien armer un bateau et partir avec des proches ailleurs. Et c'est ce qui est arrivé à un certain Éric le Rouge, et qui a donné donc lieu à une saga. Alors j'explique tout de suite ce que sont les sagas. Les sagas, ce sont les histoires que se racontent les Norvégiens, dont on n'a pas dit qu'ils étaient de culture orale, jusqu'à ce que, installés en Islande, où arrivent un jour des moines irlandais, ils se mettent à porter sur le parchemin leur histoire. Et là, ils sont pris d'une véritable frénésie d'écriture et ils écrivent toute leur histoire, absolument tout. Et ils la connaissent parce que jusqu'à présent, ils se la racontaient entre eux. C'est ce qu'on appelle les sagas. Et donc, la saga d'Éric le Rouge veut que Éric le Rouge était un garçon gentil mais un peu violent, qui, dans une querelle de voisinage, assassina quelqu'un, fut donc puni au bannissement et partit pour l'Islande. D'autres partir avec lui, d'autres le rejoignirent. Ils s'installèrent en Islande. À partir de là, il y eut de nouveau une querelle. Et c'est le fils, cette fois qui était mêlé, Leif, qui partit de son côté vers l'ouest et toucha à ce moment-là le Groenland. Au bout de la période de bannissement, il revint en Islande pour dire « Venez donc, la terre est verte », comme on le disait tout à l'heure. Ils y allèrent. Et un jour, un viking qui se rendait de Norvège en Islande a raté l'Islande et est tombé...
A raté le Groenland
et est arrivé plus loin. Il s'en est pas vanté parce qu'au lieu de considérer qu'il avait découvert un nouveau pays, il s'est dit « j'ai fait une faute de navigation ». Il n'était pas très fier de lui. La chose a fini par se savoir. Et donc Eric a envoyé son fils Leif faire un premier voyage de repérage sur ce que maintenant on sait être le Labrador. Ça, c'est la saga de Leif l'Heureux. On a à peu près pu reconstituer le voyage qu'il a sans doute fait. Là, j'y travaille actuellement de façon plus précise. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'on a pensé longtemps que cette affaire était une légende. Jusqu'à ce que l'on découvre, dans un site qui se trouve au nord de Terre-Neuve, face au Canada, un endroit qui s'appelle Lance Meadows, qui ne veut pas dire prairie en anglais, mais méduse prononcée à l'anglaise, Lance Meadows, on a découvert un établissement garanti viking qu'on a pu dater de façon très précise. On sait qu'en 1026, très précisément, il existait. On pense que c'était un camp avancé qui permettait de profiter d'un été pour faire la traversée depuis le Groenland jusque Terre-Neuve. Ensuite, au beau jour, on repartait chercher du bois. Manifestement, c'est ce dont il y avait le plus besoin là-haut. Et au printemps, on repartait avant l'hiver suivant. Alors, comment cette navigation à travers l'Atlantique a-t-elle été possible? 1. Il y avait des repères naturels qui étaient les circulations des baleines, les vols des oiseaux, la couleur de l'eau, l'état de la mer, qui se racontaient à travers des textes qui sont précisément ces sagas. Ça, c'est une première chose. Et puis ensuite, il y avait le fait que la visibilité est très 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 forte dans ces contrées. C'est-à-dire que les montagnes d'Islande, on les voit jusque des centaines de kilomètres au large. Pareil pour le Groenland. Ce qui fait que finalement, la navigation en dehors de la vue de terre restait relativement limitée. Quelques dizaines d'heures peut-être. Donc, et puis par ailleurs, en termes de distance, c'est beaucoup plus court que ce que Christophe Colomb a fait. Aussi, on est quand même en haut de la planète et les distances sont beaucoup plus faibles.
Combien de temps s'est traversé?
Grosso modo, je dirais qu'entre de l'Islande au Groenland, c'était de l'ordre d'une petite semaine. Et je pense qu'on peut dire que de Norvège à l'Islande, il fallait compter une dizaine de jours.
Les,
les Vikings norvégiens se sont implantés en Islande. Ils y ont développé une civilisation aussi, alors, dans laquelle l'écrit est important.
Eux, ils ont gardé la vieille civilisation. Et c'est pour ça que le Parlement islandais est le plus vieux Parlement d'Europe.
Donc c'est une véritable démocratie.
Totalement.
À la manière dont vous nous l'avez expliqué,
totalement.
Clan, la famille et le chef élu.
Oui, ils l'ont conservé de façon scrupuleuse et c'est ce qui leur a permis d'avoir cette efficacité et cette autonomie pendant très longtemps.
Mais ils étaient considérés comme une colonie norvégienne. Alors, je ne sais pas si le terme de colonie à l'époque est très vraisemblable.
Les Islandes étaient désertes. Il y avait quelques moines, des anachorètes irlandais. Oui,
donc en fait, ce n'est pas une colonie. Ils ont développé un pays, puisqu'il n'y avait personne.
Ils se sont installés sur une terre vierge, et qui n'était pas facile à vivre.
Donc l'Islande, l'histoire montre à l'évidence, bien entendu, que c'est une implantation qui a été durable. Ils ont développé leur propre pays, leur propre civilisation, leur propre organisation politique. Ils ont continué à vivre, vous l'expliquez, selon ce qui faisait en quelque sorte leur ADN viking initial. Pas droit, et puis donc ce système à la fois clanique et démocratique de chef élu. Qu'en est-il du Groenland?
Alors, le Groenland...
Combien de temps ça a duré, l'implantation viking au Groenland? Qu'est-ce qu'il en reste?
Eh bien, rien du tout.
Bon.
Rien du tout. Ce qui s'est passé, c'est que les populations vikings du Groenland n'ont pas su sauver la terre. En Islande, on a eu le même problème. La terre arable était rare, ils ont surexploité, ils ont coupé le peu d'arbres qu'il y avait. Au Groenland, c'était encore plus. Ce qui fait qu'il y a eu un appauvrissement. Ensuite, on a eu un refroidissement du climat qui amenait les populations inuites du nord du Groenland à descendre vers le sud. Donc on a eu très certainement des conflits entre ces deux nations. C'est tenté qu'on puisse parler de nations pour les Inuits à l'époque. C'est de culture, on va dire. Et ensuite, on a eu, semble-t-il, de grosses épidémies, comme du choléra, qui ont abouti à la disparition complète, peut-on dire, des populations vikings. Et tout le Groenland est tombé dans l'oubli jusqu'aux années 1700, quand un missionnaire danois est remonté vers ses coins pour voir s'il n'y avait pas encore quelques âmes à convertir. Et à ce moment-là, a commencé une autre aventure, qui est celle de la colonisation du Groenland par le Danemark.
Il n'a trouvé personne, il a trouvé ce missionnaire,
non.
Hormis les Inuits.
Hormis les Inuits, qui eux, du coup, se sont fondus avec les Danois qui venaient, et ça fait tout à fait encore un autre peuple.
Et l'implantation en Amérique du Nord, donc au nord, au large du Canada, ça a duré combien de temps?
Alors, ce n'est pas une implantation.
Non,
c'est l'existence d'un établissement qui devait servir de façon temporaire, il n'était sans doute pas permanent.
Nous avons le message d'un auditeur qui vous demande si les Vikings sont allés en Asie. Il pense à une grotte sur une petite île non habitée près de Phuket, en Thaïlande, où un guide nous avait affirmé que les Vikings étaient passés par là et y avaient fait le dessin d'un drakkar qu'on voyait vraiment. Lui n'y croit pas, mais il vous pose quand même la question.
Je pense qu'il a raison de ne pas y croire.
Donc ils ne sont pas allés jusqu'aux grottes de Phuket.
En revanche, les lions de l'arsenal de Venise portent bel et bien des runes vikings, parce que ces lions en fait ont été rapportés de Grèce où des vikings étaient descendus.
Alors justement, vous évoquez dans votre livre, Dominique Lebrun, l'épopée viking, donc aux éditions Vuibert, que les vikings ont tenté de conquérir Rome. Enfin, de faire un raid plutôt sur Rome,
oui,
plutôt de conquête.
En fait, ils ont passé le détroit de Gibraltar, remonté l'Espagne, ils ont passé l'hiver au large de l'actuelle Camargue. Ensuite, ils sont remontés le Rhône jusque dans la Drôme, ce qui est quand même assez extraordinaire, avant de redescendre. Là, ils ont quand même senti qu'il y avait une résistance potentielle sur les rives, donc ils sont partis et ont tenté d'attaquer Rome, mais en réalité, ont attaqué une autre ville dont tout d'un coup j'ai un trou de mémoire, je ne me rappelle plus le nom, vous l'avez peut-être dans vos notes avant que je feuillette le livre, et en fait, non pas pillé Rome, mais croyaient avoir pillé Rome. C'est je suis désolé.
Ce qui est impressionnant dans cette épopée de l'Ouest, vers l'Amérique, donc via l'Islande et le Groenland, c'est l'utilisation des routes maritimes qui n'ont été écrites à un moment que dans ces fameuses sagas.
Comment pouvait-il se lancer dans de telles expéditions sans avoir de carte marine, sans avoir de renseignements précis ? C'est extrêmement impressionnant.
C'est très impressionnant, mais pour qui connaît, pour y être né, le régime de vent et le ciel qui correspond, l'état de la mer, se diriger avec ces éléments-là suffit largement pour arriver en face, là où on a besoin d'aller. Puis de temps en temps, effectivement, on rate sa cible et on se retrouve au Labrador au lieu d'arriver au Groenland. Mais grosso modo, sur ces distances-là et dans ces époques-là, ce n'est pas mystérieux. Mais pour l'intégrer, poser la question à un pêcheur breton qui avait l'habitude d'aller de Bretagne en Irlande avec son chalutier, il avait toutes les cartes radar, tout ce qu'il faut, mais il n'en avait pas besoin. Tant de temps dans telle direction. Les morutiers de Saint-Malo vers Terre-Neuve, c'était pareil.
A-t-on une idée des taux de pertes dans ces traversées?
On en connaît un qui est le voyage des gens que Éric Le Rouge est persuadé d'aller au Groenland. Je crois que c'est de l'ordre de 25% de pertes qui est annoncé.
Quel pourcentage, pardon?
25%. Ouais.
C'est quand même important.
Pour l'époque, c'est assez normal.
C'était des gens, en tout cas, certainement extrêmement courageux. Il ne nous reste que 2 minutes à passer en votre compagnie. Vous faites tout un chapitre de votre livre, L'épopée viking aux éditions Vuberg, qui est consacré à l'empreinte des vikings aujourd'hui. Où retrouve-t-on, dans quoi retrouve-t-on l'empreinte des vikings, et notamment en France?
En France et dans l'Occident, je dirais que dans la société financière capitalistique qui est la nôtre, on a la même brutalité, le même type de comportement que les vikings. Je suis très 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 frappé.
On parle de raids financiers d'ailleurs.
Parle d'ailleurs de raids financiers.
C'est vrai, vous avez...
Dans l'état d'esprit de l'économie et de la politique très libérale rappelle très très fortement le comportement viking. Pour le meilleur et pour le pire.
Et dans la batellerie, dans les navires.
Ah, alors là, il nous faut 3 autres émissions, ça va être très très lent.
Il nous reste une minute.
Non, les embarcations pointues qu'on trouve sur les côtes anglaises et normandes, c'est une succession directe du bateau viking. Ça, c'est frappant, ça a traversé les âges. Dans tout ce qui est, la terminologie nautique, l'essentiel du vocabulaire maritime est d'origine viking. Donc, ils sont toujours là et pour longtemps.
Eh bien, Dominique Lebrun, c'est sur ces mots, sur cet héritage en quelque sorte viking que peut contempler dans les bateaux sur la côte normande que nous mettons un terme à cette émission. Merci beaucoup d'être venu nous expliquer cette épopée viking ce soir. Je rappelle votre livre, L'épopée viking 793-1066, 3 siècles pour l'éternité de Kiev à Hastings, en quelque sorte que vous publiez aux éditions Vuber. Merci Dominique Lebrun, merci à vous, chers auditeurs de Radio Courtoisie, pour votre fidélité. Merci à Stéphane à la technique, merci à Marie-Hélène qui a pris vos nombreux messages, chers auditeurs de Radio Courtoisie, et merci encore à vous tous pour votre fidélité. Très bon dimanche.
Entendre le libre journal des amitiés françaises dirigé par Thierry Delcourt, diffusé en direct sur Radio Courtoisie dimanche 5 mars 2023 de 18h à 21h et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.